L'amour est patient, c'est la première chose, la première qualité de l'amour. L'amour est serviable. L'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et l'apôtre Paul termine cette description magistrale de ce qu'est l'amour de Dieu, l'amour suprême, par ces simples mots. L'amour ne succombe jamais.
So Pierre just read us verses 4 through 7 in 1 Corinthians 13, that majestic description of love. And Paul, the apostle, ends his description with the simple phrase, love never fails.
L'amour ne succombe jamais.
Love never fails.
C'est en fait le cœur de ce chapitre.
And that is the heart of this chapter.
C'est même le cœur du message de Paul, de l'apôtre Paul, à l'église de Corinthe. Et nous savons que Paul parle inspiré par l'Esprit de Dieu. Et donc ça, c'est le message de Dieu, non seulement pour l'église de Corinthe, mais aussi pour l'église à Nice,
but also for the church here in Nice,
en décembre 2000.
In December of year 2000.
Comme la ville de Corinthe, qui était remplie de corruption, de méchanceté, de vices de toutes sortes, nous trouvons à Nice.
Just as the town of Corinth was filled with all kinds of corruption, we too find that here in Nice.
Et il y avait une église qui était supposée être habitée par l'Esprit de Dieu. Qui devait déborder de la vie de Jésus-Christ. Cette vie abondante qu'il est venu donner à ses brebis, nous dit-il dans Jean. Cette église, elle devait être dirigée par sa volonté. Et elle devait révéler son amour. La ville, elle était très matérialiste.
But the city was very materialistic.
Nice est très matérialiste.
Nice is pretty materialistic.
Elle était opposée aux choses de Dieu.
And it was opposed to anything that dealt with God.
Il y avait beaucoup d'égoïsme.
There was much self-centeredness,
de rébellion.
Rebellion.
Et il devait y avoir en fait un très grand contraste entre les païens et les croyants. L'Église est appelée à être en communion avec Jésus-Christ. Nous l'étudions le mercredi soir dans 1 Jean, dans la première épître de Jean. Et ici même, nous avons vu dans le début de 1 Corinthiens que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1:9.
And in the beginning of 1 Corinthians 2, 1 Corinthians 1:9, we read that God is faithful, through whom you were called into fellowship with his Son, Jesus Christ.
La communion, c'est le mot grec koinonia, qui veut dire qu'il y a un partenariat, que ses ressources sont les nôtres, que nos maigres ressources sont les siennes.
The word communion, which may be translated for us as fellowship, is from the Greek word koinonia, which means that we share all his resources, and he shares the feeble resources that we possess.
Peut-être vous vous dites, mais quelles ressources ai-je à proposer à Dieu ?
And we might be asking ourselves, what resources do I have to offer God?
Qui suis-je en comparaison du Créateur de l'univers ?
Who am I in front of the Creator of the universe?
Et ça, c'est le grand plan, le mystère du grand plan de Dieu.
And that's the mystery of God's great plan.
Qui choisit d'utiliser des hommes pour accomplir ses desseins.
that he chooses to use men to accomplish his purposes.
Nous avons vu en étudiant le chapitre 12 que comme le Christ était incarné en Dieu s'était incarné en Jésus-Christ à Bethléem.
When we studied chapter 12, we saw that God became incarnate in Jesus at Bethlehem.
Maintenant Dieu s'est incarné dans son Église. Nous sommes le corps de Christ.
Now he is incarnated in his body, his church, the body of Christ.
Et nous devrions être animé par le même amour que nous avons décrit dans 1 Corinthiens 13.
And we should be animated by the same love that he's describing here in 1 Corinthians 13.
Et quand nous avons cet amour, nous avons une responsabilité, c'est celle d'annoncer la bonne nouvelle.
And when we have this type of love, we also have the responsibility to announce this good news.
Un auteur chrétien anglais, Alan Redpath, a dit « Le salut va toujours de pair avec le devoir. »
British author Alan Redpath wrote that salvation always comes with victory.
Duty.
With duty.
Nous devons, une fois que nous sommes sauvés, c'est pas pour être tranquille et heureux, mais c'est nous sommes dépositaires d'un trésor que nous devons partager.
Once we become saved, we can't just rest at peace with that experience. We have the duty of sharing the good news that we've learned.
Et l'église de Corinthe avait failli à ce devoir.
And the church in Corinth didn't keep their duty, didn't perform it.
C'est pas nécessairement que leur doctrine était fausse, en erreur.
It wasn't that they had false doctrine or were in error.
Mais leur conduite laissait beaucoup à désirer.
But their behavior left a lot to be desired.
Et ce même auteur anglais dit qu'une église qui est charnelle,
and the same English author said that a worldly church, a carnal church,
une église divisée,
a divided church,
une église mondaine,
a worldly church,
une église compromise,
a church with compromise,
une église paresseuse,
or a lazy church,
ne peut jamais proclamer efficacement l'évangile, la bonne nouvelle.
Efficiently announce the good news, the gospel.
Et le problème, c'est que la ville avait influencé l'église plus que l'église n'avait influencé la ville.
And the problem was that the city of Corinth influenced the church more than the church was influencing Corinth.
Et bien sûr, je vous invite, pendant que nous parlons de cette situation à Corinthe, à vous poser en votre cœur la question, qu'est-ce qui se passe à Nice, dans l'église, dans cette église, mais dans les autres églises aussi. Est-ce que peut-être, en tant que chrétiens, nous sommes trop passifs?
Maybe as Christians we are too passive.
Nous ne nous impliquons pas dans la vie de l'Église.
We aren't really committed to the life of the church.
Peut-être manquons-nous de respect envers les autres et envers Dieu en ne venant pas aux réunions ou en arrivant en retard.
Maybe we lack respect towards God, towards the group, the church, by showing up to church late or not even coming.
En ne priant pas.
Or not praying.
En ne lisant pas notre parole, la parole de Dieu plutôt.
Or not reading the Bible, the word of God.
Est-ce que nous sommes spirituellement paresseux?
Are we spiritually lazy?
Est-ce que nous avons un impact sur notre famille?
Are we having an impact on our families?
Nos voisins?
Our neighbors?
Nos collègues de travail?
The people we work with?
Les autres étudiants, si nous sommes étudiants?
Or other students, if we are students?
Est-ce que nous avons le moindre impact sur notre quartier?
Or are we having any impact on our neighborhoods?
Sur notre ville?
Our city?
Notre région?
The region?
Notre pays?
Our country?
Le monde?
The world?
Et encore une fois, le secret, ce ne sont pas des méthodes humaines.
And again, the secret is not human methods.
Le secret, c'est l'amour agapé à l'œuvre en nous et dans l'Église. Amen.
The secret is agape love in ourselves and in the church.
Et un amour qui ne succombe jamais, ça devrait nous caractériser individuellement et collectivement.
And a love that never fails should be characteristic of ours individually and also of the church.
Nous allons continuer la lecture donc du chapitre 13 à partir du verset 8.
Now we'll continue reading in Corinthians chapter 13, beginning with verse 8.
Ça se trouve page 197 dans le dans la Bible à la colombe, la Bible bleue, dans le Nouveau Testament, la deuxième partie. Je lis donc dans la version à la colombe, 1 Corinthiens 13, 8. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et juste le début du chapitre 14, rechercher l'amour. Donc, l'amour ne succombe jamais. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'autres traductions de ce même, cette même phrase.
So this phrase, love never fails. It's interesting to look at other translations of this.
Certains disent l'amour est éternel.
Some say love is eternal.
L'amour n'aura pas de fin.
Love never ends.
L'amour ne périt jamais.
Love never
perishes.
Perishes.
L'amour ne meurt jamais.
Love never dies.
L'amour ne disparaît jamais.
Love never disappears.
En fait, la traduction mot à mot, c'est « l'amour ne tombe jamais ». Il se cache jamais la figure.
It never falls on its face.
Il se tient toujours debout.
It always holds itself up.
C'est le même mot qui est utilisé, par exemple, pour parler des pétales d'une fleur qui tombe parce que la fleur se fane.
It's the same word to use to describe the petals of a flower when it grows old and the petals fall.
Et l'amour ne tombe jamais au sol parce qu'il n'y a jamais de corruption, de putréfaction, de décomposition dans l'amour agapé.
Love never falls to the ground. There isn't this growing old or dying process.
Ça veut dire aussi que l'amour ne perd jamais sa force. Il est toujours capable de se tenir droit. Il ne s'effondre pas. Il se...
And it also expresses the idea that love never loses its force. It never grows weak and begins to fall apart.
Après une longue marche ou un grand effort physique, on est des fois à ramasser à la petite cuillère. C'est jamais le cas de l'amour.
After a strenuous hike, when we're exhausted physically, sometimes we feel like we're being picked up.
L'amour ne tombe jamais, il reste toujours fidèle au poste.
Love never fails, it's always faithful to its call, its post.
Un peu comme ces gardes à Buckingham Palace qui sont là en permanence.
It's kind of like the guards at Buckingham Palace, they're there permanently.
Parlant de Buckingham Palace, Shakespeare a écrit une description de l'amour, a décrit l'amour en disant l'amour n'est pas l'amour s'il change quand il trouve un changement. Love is not love which alters when it alteration finds. C'est-à-dire que trop souvent notre amour, si on voit un changement chez l'autre, alors l'amour, il n'y en a plus, ou il change, ou il diminue.
This quote is expressing the idea that when we see love in one of us or opposite us changing, too often we too, our love changes.
Encore une fois, il est très important, nous l'avons vu, que cet exemple, plutôt cet amour agapé, cet amour parfait, cet amour divin, il est parfaitement exemplifié en Jésus-Christ.
And this agape love, this perfect divine love, is perfectly exemplified in Jesus Christ.
Jean nous dit que Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
John tells us that Jesus who loved his own in this world will love until the end, or all the way.
Et il est fondamental pour votre vie de réaliser que Jésus-Christ vous aime.
And it's fundamental in our lives to to recognize that Jesus Christ loves us.
C'est dommage parce que souvent c'est comme un cliché, Dieu vous aime.
Too often it's like a phrase we take for granted, Jesus loves you.
Et on réalise même pas ce que ça veut dire.
And we don't even realize what it means.
Mais même avant que vous veniez à lui, Dieu vous aime.
But even before we turn to God, God loves us.
Jésus ne cesse jamais de vous aimer.
Jesus never stops loving us.
J'irai même plus loin. Vous ne pouvez Vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher de vous aimer.
And we can take that even further. We can't do anything to keep him from loving us.
Et j'aime bien ce qu'a dit un auteur américain, J. Vernon McGee, qui a dit: vous pouvez prendre un parapluie pour ne pas être mouillé par la pluie.
An American author, J. Vernon McGee, says that you can take an umbrella to keep yourself from getting wet.
Mais vous ne pouvez pas empêcher la pluie de tomber.
But you can't keep the rain from falling.
Et on a tous l'expérience en ce moment à Nice.
And we're experiencing that right now in Nice.
Et de la même façon, il dit, vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous aimer.
And in the same way, you can't prevent God from loving you.
Quel que soit le parapluie que, sous lequel vous vous tenez.
No matter what kind of umbrella you try to hide under.
Ce soit le parapluie de vos péchés.
Maybe the umbrella of your sins.
Le parapluie de l'incrédulité.
Or an umbrella of unbelief.
Vous ne pouvez pas empêcher Jésus-Christ de vous aimer.
You can't stop Jesus.
Amen.
Christ from loving you.
Il a tout fait. Il l'a déjà démontré. Avant même que, alors que vous étiez encore dans nos, nous étions encore dans nos péchés, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous.
He's already done it all. Even while we were still in our sins, God sent Jesus Christ to die for us.
Et l'ennemi aimerait bien nous persuader du contraire en nous convainquant que nous avons trop péché, nous sommes trop éloignés de Dieu pour qu'il puisse encore nous aimer.
But we have an enemy who wants to convince us that we were too far gone in our sins. And there's nothing we can do.
Il veut nous faire croire que Dieu nous aime avec un amour humain.
He wants to make us believe that God loves us with a human love.
Alors que Dieu veut que nous aimions avec l'amour divin.
But God loves us with a divine love.
Et donc, Paul va approfondir sa définition de l'amour agapé.
So Paul is going to go even deeper with his definition of agape love.
En établissant d'abord un contraste et puis ensuite une comparaison.
First by giving us a contrast and then a comparison.
Il va d'abord comparer, plutôt contraster l'amour avec les dons spirituels.
First he's going to contrast love with the spiritual gifts.
Que ce soit verset 8, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie.
In verse 8, we see that he says whether there's gifts of prophecy, tongues or knowledge, they will all be done away with.
Ici, nous sommes dans le contexte des dons spirituels.
And we're in a context here that's speaking of the spiritual gifts.
Paul écrit à l'église pour les reprendre en leur disant tout d'abord, je sais que vous manquez d'aucun don.
Writing to the church in Corinth, he's reprimanding them, but he begins with admitting, I know you don't lack any gifts.
Mais vous avez oublié l'amour.
But you've forgotten love.
Et au début du chapitre 13, nous avons vu qu'en fait, il prend l'exemple de quelqu'un qui aurait tous les dons spirituels sans l'amour.
And at the beginning of chapter 13, he gives us an example of someone who has all the spiritual gifts, but no love.
Et cette personne, elle, spirituellement, elle ne vaut rien.
And spiritually, the person is worth nothing.
Elle ne peut rien accomplir pour Dieu.
And can't accomplish anything for God.
Par contre, dans la suite, il parle de l'amour, d'une personne qui aurait l'amour, il ne parle même pas des dons.
And then he speaks of a person who has love, but doesn't speak of the gifts.
Alors cette personne, elle est pour toujours dans l'œuvre de Dieu.
And this person is always in the midst of the work of God.
Cette personne, elle tiendra toujours.
And this person will be upheld, will stand firm forever.
Alors il dit que les prophéties seront abolies.
And he says that prophecy will be done away.
Nous avons rappelé en parlant dans les chapitres précédents que ce n'est pas nécessairement comme les prédictions du futur qu'on trouve dans l'Ancien Testament.
We studied this in the earlier chapter. factors that prophecy isn't just a prediction of the future.
Dans le Nouveau Testament, c'est souvent simplement la proclamation d'une vérité déjà révélée.
In the New Testament, it's often a proclamation of a truth that's already been revealed.
Et prophétiser, ça veut dire en avant, c'est-à-dire à l'avance ou avec force.
The word for prophetize means to go forward, to be in front of.
Nous avons parlé aussi un peu du don des langues.
And we talked a little previously about the gift of tongues.
Nous avons dit que c'est un langage de prière et de louange donné par le Saint-Esprit.
We defined it as a gift, a prayer gift, a prayer language. Given by the Holy Spirit,
que l'on n'a pas appris,
that we haven't learned,
on n'a pas été à l'école de langue,
we don't go to a language school for it.
Et cette langue nous permet à notre esprit de communiquer avec l'Esprit de Dieu.
And this gift of tongues is a language that allows us to communicate with the Spirit of God.
On verra que Paul va nous encourager surtout à utiliser ce don pour la prière personnelle.
We'll see that Paul encourages us to use this gift especially for personal prayer.
Et que s'il est utilisé dans l'église, il doit être accompagné d'une interprétation.
And that if it is used in the church, it should be accompanied by interpretation.
Et puis les questions de connaissance qui sera abolie.
And that it talks about knowledge that will be done away.
Là aussi c'est une référence au don de parole de connaissance.
And this is making reference to the gift of words of knowledge.
Et nous avons défini ce don comme étant celui de recevoir de façon surnaturelle.
And we define this as a receiving supernaturally.
Des informations précises.
Precise information.
Dans le but de la prière ou du service.
In the goal of prayer, answered prayer or serving.
Or praying. Et là, il dit qu'en fait, les prophéties, la connaissance seront abolies.
So prophecy and knowledge will be done away.
C'est-à-dire rendues sans effet, sans puissance.
That means that they will be brought to a point where they have no effect.
C'est un mot dans lequel, en grec, c'est enlever, quelque part, c'est enlever l'énergie. C'est un peu comme si dans le petit lapin de je ne sais plus quelle marque de piles, on enlève les piles, là il va s'arrêter enfin. Duracell, merci. Autrement dit, ces dons ne serviront plus à rien. Les langues, il est dit qu'elles cesseront. Et en fait, le mot, c'est pause. Elles seront mises sur pause. On arrêtera le bouton, là, comme on peut appuyer sur le bouton.
The word describes, pausing.
Et puis, il explique, verset 9,
and in verse 9 he explains,
parce que c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons.
It says that we know in part and we prophesy in part.
Et c'est vrai qu'à moins de se leurrer, de se tromper soi-même, il faut être humble et reconnaître que nous n'avons pas du 20 sur 20 en ce qui concerne les prophéties que nous pouvons faire.
And admit or recognize that we aren't always 100% right in the area of prophecies that we've made.
Lorsque nous avons le sentiment intime qu'une chose s'est passée, peut-être elle ne s'est pas passée non plus.
When we have the intimate assurance that something is going to happen or maybe not to happen.
C'est vrai spirituellement.
It's true spiritually.
Et c'est encore plus vrai dans la connaissance du monde qui nous entoure.
And it's also true in the world that surrounds us.
J'ai, au cours des années, gardé des vieux livres de science.
Over the past several years, Pierre has kept his old science books.
Des livres dont je pensais jamais pouvoir me séparer.
Books he never thought he could part with.
Et ces livres sont un peu le moisi maintenant qu'ils sont à la cave depuis des années.
And these leaves are getting kind of mildewy. They've been in the storage room for years.
Et pour la plupart, les connaissances ont tellement évolué qu'ils ne servent plus à rien.
And for the most part,
Je pensais que peut-être ils intéresseraient Tonio.
I thought maybe Tonio would be interested by them.
Et lui aussi, il a ri. Mais verset 10, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alors il y a quelques versets dans la Bible qui sont l'objet de grandes polémiques,
that are objects of great argumentation,
qui montrent que justement nous ne savons pas de quoi nous parlons vraiment.
And they actually show us that we really don't know what we're talking about.
Que nous ne connaissons que partiellement.
That we do only know things partially.
Et voici un de ces versets, objet de beaucoup de controverses, de polémiques.
And this is one of those verses, an object of great discussion.
Parce que la question c'est, qu'est-ce que c'est ce qui est parfait?
The question raised is, what is this perfect thing?
Ce qui est parfait, qui devait arriver dans le futur à l'époque de Paul, alors on sait que ça ne pouvait pas être l'Esprit Saint, déjà arrivé à la Pentecôte, comme il est décrit dans le livre des Actes. Certains pensent que ça veut dire, ça part de la Bible complète.
Some think it's making reference to the entire complete Bible.
Et au début du siècle, du 20e siècle,
of the 20th century,
on est déjà au 21e,
we're already in the 21st,
ou presque, suivant certains,
or almost, according to some.
C'est lors du réveil d'Azusa Street à Los Angeles.
There was a revival on Azusa Street in Los Angeles,
qui a marqué la naissance du mouvement pentecôtiste.
That was the birth of the Pentecostal movement.
Et l'accent a été mis sur les dons spirituels que l'Église avait oubliés pendant des siècles.
And the accent was on the spiritual gifts that the church had forgotten or ignored for centuries.
Donc des théologiens conservateurs
and conservative theologians
ont essayé d'utiliser ce passage pour dire que les dons, c'était pour le premier siècle. En disant, ce qui est parfait, c'est le Nouveau Testament, complètement fini. Et c'est vrai que nous lisons ce passage dans notre Bible avec toutes les autres lettres ou textes. Mais à l'époque où Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, beaucoup de passages de textes n'ont pas été écrits, comme par exemple l'Apocalypse de Jean. Et donc dans l'esprit de ces gens, dès que le Nouveau Testament a été terminé dans le premier siècle, ils disent donc les langues, les prophéties, les dons de parole, de connaissance et en fait tous les dons spirituels ont cessé ou été abolis.
That all the spiritual gifts, such as prophecy, tongues, knowledge, had ceased and were in effect done away with.
Le problème, c'est qu'il y a un verset juste après qui ne permet pas cette interprétation. Verset 12.
But there's a problem because in verse 12, which follows right after,
aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, sous-entendu complètement, parfaitement.
It says that now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know fully, just as I also have been fully known.
De toute évidence, nous ne connaissons pas parfaitement ce qui est autour de nous.
From all evidence, we don't know perfectly everything that surrounds us.
Nous ne connaissons pas comme nous sommes connus par Dieu, sous-entendu connus par Dieu parfaitement.
And we don't know ourselves as God knows us perfectly.
Nous ne voyons pas face à face avec qui?
We can't see ourselves outside of ourselves.
Donc ce n'est pas le Nouveau Testament complètement écrit.
And so the whole New Testament completely written is not referring to this perfect.
D'autres théologiens pensent que ce qui est parfait, ce sera l'état de perfection justement atteint après l'établissement d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux.
Others think that this state of perfection is will happen once the new earth and the new heavens has been established.
Mais en fait, l'interprétation qui semble la plus naturelle, la plus simple, d'après ce verset 12 notamment,
especially after looking at verse 12,
ce qui est parfait, c'est Jésus-Christ.
That which is perfect is Jesus Christ.
C'est, et ce qui est parfait va revenir.
And that which is perfect will come back.
Il est dit dans plusieurs passages, il est fait allusion à ce second retour de Christ sur la terre. Et là, il est dit qu'en un instant, nous serons transformés. Nous serons face à face avec lui. Nous le verrons tel qu'il est. Je crois que ça désigne aussi la rencontre que nous avons avec lui si nous... Éphésiens 4, 16... Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous avons cette espérance d'être un jour réunis avec lui.
So we have this hope of once again being reunited with him. It tells us the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord.
C'est un passage que l'on peut trouver confirmé dans 1 Jean 3, 2.
And it's a passage that is confirmed in 1 John 3, 2.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face tel qu'il est, et cela aura un pouvoir transformateur indestructible, imperturbable.
In 1 John 3, 2, it says, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we shall be. We know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him just as he is. It's expressing that we will be face to face with him and transformed.
Autrement dit, nous n'aurons plus besoin de ces dons lorsque nous serons avec Jésus-Christ.
In other words, we will no longer need these gifts when we are with Jesus Christ.
Le verset 11 nous parle aussi d'une idée de croissance spirituelle.
And verse 11 in 1 Corinthians 13 talks about a spiritual growth.
Et nous avons vu aussi en parlant de Éphésiens 4 que les dons spirituels permettent la croissance de chacun et de l'Église.
We also studied earlier in Ephesians 4 that the spiritual gifts bring about the growth of the individual and the church.
Il y a un verset dans Éphésiens 4, 13.
There's a verse in Ephesians 4, 13.
Qui parle de ce que ces dons vont être là jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ.
He talks about these gifts of the Spirit that we will have until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
Et le mot qui est utilisé ici, l'homme fait, c'est le même mot en grec que le mot parfait qui est utilisé dans ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli.
This word in Ephesians for a mature man also makes reference to a complete man.
And that's the same word that is used in verse 10, ce qui est parfait, that which has, that which is perfect. Et cette croissance, c'est donc ce verset, il nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Il doit y avoir de la croissance dans notre vie de chrétien personnel et notre vie chrétienne de commune en tant qu'église.
There must be spiritual growth in our individual lives as a Christian and also in the life of the church.
C'est un thème qui revient souvent dans la Bible. Nous en avons parlé mercredi dernier dans 1 Jean 2.
It's a theme that is repeated often in the Bible. We talked about it Wednesday night in 1 John 2.
Quand Jean s'adresse aux petits-enfants, aux jeunes enfants, aux jeunes gens, aux pères, nous avons vu aussi au début de la lettre de Paul, Corinthiens chapitre 3, qu'il était question d'hommes naturels, charnels, spirituels, et qu'il y avait besoin d'une nourriture au départ, c'était une nourriture simple, le lait de la parole de Dieu. Et puis ça devait devenir une nourriture solide.
We also saw in 1 Corinthians chapter 3 that there was a description of spiritual men and carnal men, and that there was a food for young believers or young men that was compared to milk.
Et donc il doit y avoir cette croissance.
So there has to be a growth.
Tony était un petit bébé.
Tonio was a little baby.
Il prenait le sein.
He nursed.
Il prenait le biberon.
Then he had a bottle.
Mais si aujourd'hui, en rentrant, il n'est pas très en forme aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Si je le voyais avec un biberon en train de boire du lait.
But if I saw him today, he's at home, he's not feeling well. If I saw him today drinking a baby bottle.
Je m'inquiéterais beaucoup.
I would be pretty worried.
Et Paul nous dit que si nous sommes chrétiens, au bout d'un certain temps, nous devrions avoir dépassé le stade du béaba.
And Paul is telling us as Christians that after a certain point in time, we need to get beyond the ABCs.
Les enfants sont sympathiques.
Children are wonderful.
On a eu 2 enfants, on a commencé tard. Le Seigneur ne nous a pas donné davantage d'enfants, mais j'aurais aimé en avoir au moins 12.
We had just 2 children. We began a little late. We would have liked more. Pierre would have liked 12.
Nancy vient d'une famille de 12, donc j'avais ce but là.
I come from a family of 12, so that's where you got the idea. Or you were worried about it?
Non. Il y a des grandes qualités chez les enfants qui nous font sourire, qui nous touchent le cœur.
Children have great qualities that cause us to smile, that touch our hearts.
Je sais que Lydia pense à sa petite sœur. Il y a la spontanéité, la simplicité,
simplicity,
l'énergie.
They're energetic.
Des fois, ça, c'est pas très bien.
Sometimes that's not
c'est fatigant.
It's tiring.
Mais il y a cette confiance aussi, cette insouciance. À tel point que Jésus nous dit que ça doit être des exemples pour nous. Jamais Tonio ne s'est inquiété, ou Sébastien, pour ne perdre du sommeil en se disant, est-ce que maman et papa vont avoir de quoi nous nourrir demain matin ? Peut-être qu'ils auraient dû, mais jamais ils l'ont fait. Non,
they should have.
Ça, c'est la confiance que Dieu veut que nous ayons envers lui. On l'appelle papa.
And that's the confidence, the trust we should have towards God. Papa.
Jésus disait, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil.
Jesus says, let the little children come to me, don't prevent this. Because the kingdom of heaven belongs to them.
Such are them. Mm-hmm. Mais encore une fois, quand on prend de l'âge, il est vital que ses enfants, en prenant de l'âge, il est vital que ses enfants grandissent physiquement.
But as we grow in age, it's inevitable that they need, children need to grow physically.
Émotionnellement, spirituellement.
Emotionally and spiritually.
J'avais un prof de français en 6e ou 5e. Monsieur Luzinski. C'était un Corse.
He was Corsican.
Il a du mal à digérer.
He had a hard time digesting that, being a Corsican.
Non. To digest.
Oh, he had a hard time with digestion.
Yeah. Et on comptait le nombre de n'est-ce pas qu'il disait. Isn't it?
The kids were always counting the number of times he would use n'est-ce pas.
Mais lorsqu'il notait un devoir,
homework,
son commentaire habituel, c'était style plat, gauche et puéril.
Your style is flat,
clumsy
and
childish.
Childish.
Et quelqu'un lui disait, mais on est des enfants, c'est normal que ce soit puéril. Mais lorsque nous grandissons, nous ne devons plus être puérils.
But as we grow, we should no longer be childish.
Et Paul continue en disant que pour l'instant, on voit mal.
And Paul continues by noting that for right now, we don't see fully.
Corinthe était une ville célèbre pour la fabrication des miroirs en bronze poli.
Corinth was renowned for its fabrication of mirrors that were made out of polished brass.
Mm-hmm. Metal. En fait, ça, les miroirs tels que nous les connaissons aujourd'hui, ça ne date que du XIIIe siècle.
And the mirrors that we have today go back to the 13th century.
Où on met de l'argent derrière du verre.
Where silver was put on the back of glass.
Et lorsqu'il dit nous voyons au moyen d'un miroir,
and when Paul is saying that we see in a mirror,
il dit nous voyons flou, comme je vous vois quand j'enlève mes lunettes.
He says we're not seeing clearly, it's out of focus, like when Pierre takes his glasses off.
Je peux avoir certaines informations, oui, deux et deux, maintenant.
Certain things.
Mais je ne peux pas tout lire d'ici au fond de la salle.
But he certainly can't read from here at the back of the room.
Et lorsqu'il dit nous connaissons, nous voyons d'une manière confuse,
and when he says that we see in a mirror dimly,
une meilleure traduction ce serait comme si c'était une énigme. C'est le mot qui est utilisé, le mot énigme.
It would more correctly be translated as an enigma.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons des choses spirituelles,
and it's true today when we speak of God, of spiritual things,
nous sommes perplexes.
We are perplexed.
Devant certaines réalités.
In front of certain realities.
Nous sommes comme devant des énigmes.
It's like we're in front of enigmas.
Et même en tant que croyants, nous avons du mal à répondre lorsque les gens nous demandent, mais pourquoi Dieu permet-il ta la la la.
And even as believers, sometimes we have difficulty responding when people say, why did God permit such and such?
Pourquoi est-ce qu'il il permet la souffrance des innocents?
Why does he allow innocent people to suffer?
Pourquoi est-ce qu'il permet les catastrophes naturelles?
Why does he allow natural catastrophes?
Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il a vaincu le diable à la croix et qu'on voit que c'est le diable qui mène la ronde?
Why does the Bible tell us he was victorious over Satan on the cross, but we see that Satan still reigns?
Et même Paul, après cette victoire sur la croix, nous dit que le diable est le prince de ce monde. Pourquoi est-ce que le diable est toujours libre de nous tenter à pécher?
Why is the devil still free to tempt us to sin?
Pourquoi est-ce que Dieu a seulement permis au mal d'entrer dans l'univers?
Why did God allow evil to enter into his universe?
Alors sans doute, nous pouvons avoir des réponses.
It's true, we can have responses, answers.
Nous pouvons expliquer que Dieu veut que nous l'aimions.
We can explain
Et pour qu'il y ait amour réel, il faut qu'il y ait liberté de choix. Possibilité de choisir le mal. Nous pouvons raisonner un peu comme ça, mais c'est vrai qu'en fin de compte, nous n'en savons pas trop la raison. Et ça nous rappelle peut-être aussi ce que disait, pour nous encourager justement lorsque les gens nous posent ces questions. N'hésitez pas à dire je ne sais pas vraiment.
Don't hesitate to admit, I don't really know.
Mais comme l'aveugle qui avait été guéri,
but as the blind man who was healed,
vous pouvez dire ce que Dieu a fait pour vous.
You can share what God has done for you.
La différence qu'il a fait dans votre vie, dans votre façon de concevoir l'existence.
The difference he's made in your life, the difference in the way you conceive existence.
Vous pouvez aussi les inviter à se tourner à la parole de Dieu.
Show them the word of God,
de se faire une idée par eux-mêmes.
And encourage them to read it and come up with their own idea.
La bonne nouvelle, c'est qu'un jour nous verrons face à face.
But the good news is that one day we will see him face to face.
Maintenant, nous connaissons partiellement, mais alors nous connaîtrons comme Dieu nous a connus, comme j'ai été connu parfaitement.
And today we only know him in part, but there will be a day when we know him fully, perfectly.
Et nous verrons. À ce moment-là, nous verrons toutes les circonstances de nos vies.
Time, we'll
les prières auxquelles il n'avait pas répondu. Ou du moins, il n'avait pas répondu comme nous le souhaitions. Nous verrons les tragédies qui nous sont arrivées.
We'll
et nous comprendrons pourquoi il les a permises.
And we'll understand why he permitted them.
Pour l'instant, nous pouvons nous fonder sur Romains 8:28. But for now, we can cling to the verse Romans 8:28. Par la foi.
By faith.
Parce que nous ne voyons pas encore.
Because we don't yet see.
Mais nous avons cette promesse.
But we have this promise.
Que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, nous comprendrons comment toutes ces choses ont concouru à notre bien. Il y a une histoire maintenant célèbre.
There's a famous story.
C'est un petit poème.
Little poem.
On a retrouvé l'auteur après bien des années après que ce petit poème soit devenu célèbre.
The author was found several years after the poem became very famous.
Mais en gros, ça racontait l'histoire d'une personne qui se retrouvait avec Dieu justement face à face.
Essentially, it tells the story of a person who found themselves face to face with God.
Et ensemble, ils regardaient sur la plage, sur une plage de sable. Et on voyait deux traces de marches.
And there's two different tracks of footsteps.
Les traces de deux personnes qui marchaient dans le sable.
So the footprints of two people who walked in the sand.
Et la personne demande, mais pourquoi tu me montres ça, Dieu ?
And the person asked God, why did you show me this?
C'est pour te montrer que j'ai cheminé à tes côtés toute ta vie. Mais la personne dit, mais attends, là il y a un moment, on ne voit plus qu'une les traces de pas d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné alors ? Et la personne répond, Dieu répond plutôt à la personne, non, c'était moi, ce sont mes traces de pied. Vois-tu, à ce moment-là, je te portais dans mes bras. Et il faudra la perspective de l'éternité pour revoir nos vies et comprendre l'action de Dieu. Nous verrons parfaitement.
Eternity,
Des fois, les gens se demandent, est-ce que dans les cieux, on pourra reconnaître les gens? Est-ce que je reconnaîtrai ma femme, même s'il n'y a plus de mariage dans les cieux? Mes amis, mes frères de Calvary Chapel Nice? Quelqu'un à qui on posait cette question en fait disait, c'est seulement à ce moment-là que vous connaîtrez vraiment les uns les autres. Il y a un prédicateur anglais à qui on posait cette question et qui disait, je ne pense pas être plus imbécile aux cieux que je le suis ici, et je peux reconnaître mes bien-aimés ici, donc je ne me fais pas de soucis. Donc Paul, pour nous montrer la puissance de l'amour, compare d'abord contraster cet amour avec les dons spirituels.
So when Paul is describing the power of this love, first of all, he has contrasted it with the spiritual gifts.
Mais maintenant, il va les comparer avec d'autres vertus spirituelles. Il dit maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande c'est l'amour. Ce sont des qualités spirituelles qu'on retrouve souvent ensemble dans la Bible. Par exemple, Paul dit, nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 1 Thessaloniciens 1:3. L'amour est patient.
Bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ.
Mm-hmm. Donc toujours la foi, l'amour, l'espérance.
So it's often always putting faith, love and hope.
Il y a une façon intéressante de comprendre ce verset. Certains disent, oui, c'est vrai, la foi deviendra vue et l'espérance sera accomplie, donc ne seront plus nécessaires.
Someone had an interesting way of interpreting this verse that faith and hope will be accomplished.
C'est vrai que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si on voit, on n'a plus besoin de foi.
It's true that faith is defined as a hope in the things. Faith is defined as the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. So, once they're seen, it's fulfilled.
Or it's not necessary to have faith. L'espérance, c'est pas le vague souhait que quelque chose de bien m'arrive.
It's not a vague hope that something will happen to me.
L'espérance, c'est l'attente certaine d'une bonne chose qui va venir.
Hope is the very assured waiting for something that will happen.
For sure. Mm-hmm. Et donc on peut se dire, si je suis avec Dieu, à ce moment-là, mon espérance d'être avec lui sera accomplie.
And when we say we will be with God, our hope is that will be accomplished.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas dit que la foi et l'espérance seront abolies, il dit que la foi, l'espérance, l'amour demeurent.
But what's interesting is Paul doesn't say that faith and hope will be abolished, that faith, hope and love, the three of them will continue.
En fait, la foi, c'est reconnaître que nous n'avons rien, que Dieu est tout. La foi, c'est reconnaître que nous ne sommes rien, que Dieu est tout.
Faith is recognizing that we are nothing and God is all.
C'est la réponse de l'homme à la providence de Dieu.
It's the response of man to God's providence.
Et pour toujours, pour l'éternité, nous serons dans cette situation. Tout viendra de Dieu. Donc dans ce sens-là, la foi ne disparaîtra pas.
So in that sense, faith will never go away.
Et avec Dieu aussi, l'espérance ne va pas s'arrêter, dire d'un seul coup, ça y est, j'ai tout ce que j'ai à recevoir, je l'ai reçu. On s'attendra toujours à plus dans l'éternité de l'éternité.
And with God, hope also will continue. We will always be attending, waiting on the things of God for eternity.
Dieu est infini, il a des choses infinies à nous donner. Et nous allons, je ne crois pas que nous serons statiques, nous ne serons pas arrivés à un état, nous serons toujours en croissance dans l'espérance, dans la foi.
God is infinite and will infinitely have things to give us. Pierre doesn't think we'll ever be in a static relationship with God. So there will always be hope.
Un autre aspect entre ces différentes vertus, on appelle ça des vertus dans le vocabulaire théologique des fois, la foi, l'espérance, l'amour, c'est que la foi, elle possède le passé.
Another aspect of the spiritual virtues, specifically of faith, is that faith is
for the past.
For the past.
La foi dit Jésus-Christ est venu pour me sauver.
Faith says that Jesus Christ came to save me.
L'espérance est pour le futur, l'espérance dit Jésus-Christ va revenir pour m'emmener avec lui.
Hope could be for the future. Jesus Christ will return to take me away.
Par contre, l'amour, il demeure dans mon cœur, il est présent.
But in opposition to this, love abides in my heart. It's in the present.
L'amour, il doit être dans un éternel présent.
And love must be in an eternal present.
L'amour, il est en dehors du temps.
Love is outside.
La plus grande de ces trois choses, c'est l'amour.
The greatest of these three things is love.
Parce que Dieu n'est pas la foi.
Because God is not faith.
Dieu n'est pas l'espérance.
God is not hope.
Mais nous avons vu en étudiant 1 Jean que Dieu est amour.
And we saw in our study of 1 John that God is love.
Et encore une fois, il nous l'a prouvé à la croix et on ne peut rien faire contre son amour. Et Paul nous dit, verset 14, le début du verset 14, recherchez l'amour. En fait, c'est poursuivez-le.
And Paul tells us to search for love or pursue love in the beginning of chapter 14.
Comme vous courez après quelqu'un qui vous aurait pris votre sac à main,
as you might run
si vous êtes une femme,
someone, if you were a woman and someone grabbed your handbag,
ou votre poste de radio si c'est un homme. De toute votre énergie pour le rattraper, pour l'avoir.
So you would exert all your energy to catch this person, to get that.
Comment est-ce qu'on recherche l'amour?
How do we search for love?
Je crois qu'il faut réaliser que c'est pas un amour qu'on peut fabriquer, encore une fois.
We have to realize that this isn't a love we can fabricate ourselves.
Ce n'est pas un amour que l'on peut se forcer à... Je vais y arriver. Je vais être plein d'amour. Non, Dieu est amour, il faut que Dieu soit en moi.
God is love and we need God in us.
Et Paul expliquait le secret de sa vie, Galates 2:20.
Paul explained the secret of his life in Galatians 2:20.
Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Paul tells us that he has been crucified with Christ and it is no longer he who lives, but Christ lives in him. And the life which he now lived in the flesh, he lived by faith in the Son of God who loved him and delivered himself up for him.
Autrement dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Je ne peux pas vous donner cet amour divin si moi-même je ne le reçois pas. Pour terminer, j'aimerais qu'on lise le psaume 92, les versets 1 et 2.
And to end today, Pierre would like us to look at Psalm 92, verses 1 and 2.
C'est un peu une recette pour vivre ses journées.
It's like a recipe to live your day.
Le psaume 92 dit « Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut. » Et le matin, dès qu'on se lève, d'annoncer ta bienveillance. C'est le mot hébreu qui correspond le mieux au mot agapé, cet amour qu'on ne peut pas empêcher de couler sur nous. De se rappeler son amour le matin. Et des fois, c'est vrai, on doit courir, il pleut, on est fatigué. Mais nous devons prendre ce temps de réflexion, de dire oui, Dieu m'aime. Et puis, il dit, pendant les nuits, il annonce sa fidélité, la fidélité de Dieu. Nous souvenir comment il a agi dans la journée. Comment il nous a porté dans ses bras à certains moments difficiles. Et donc mon pasteur à Seattle dit que ça c'est son secret pour vivre chaque journée. C'est son sandwich quotidien. Une tranche de bienveillance dès le matin, des activités pendant la journée en pensant à Dieu, en essayant de faire sa volonté, et sa fidélité pendant les nuits au-dessus. Ça, de réaliser l'amour de Dieu dans notre vie, ça nous permet d'avoir cet amour pour les autres. Et pour Dieu. Dieu est amour.
God is love.
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu.
He who abides in love, abides in God.
Et Dieu demeure en lui.
And God abides in him.
Prions.
Let's pray.